Au début du mois de mai, il entendait l'appel à l'aide, on a besoin de personnes dans nos CHSLD. Et Pierre Gaumont, contrôleur aérien, a décidé de se porter volontaire. C'est Audrey Ruel-Manceau dans la presse qui nous l'a d'abord présenté. Monsieur Gaumont, bonjour.
Bonjour, Monsieur Drainville. Bon après-midi.
Merci de ce témoignage. Vous avez été tellement bouleversé que vous avez décidé d'écrire à la ministre McCann, ministre de la Santé. Pourquoi?
Ben effectivement, Monsieur Drainville, c'est une situation un peu hors de l'ordinaire qui se produit dans nos CHSLD, comme vous le savez tous. De l'entendre de la part des médias, mais de le voir de première ligne, c'est une autre chose. C'est sûr qu'on vit quelque chose hors de l'ordinaire. La pandémie bouleverse un peu notre système, mais il faut se rendre compte que le système n'a pas d'encadrement présentement. Je vois les employés qui se dévouent corps et âme, qui font des journées de 16 heures, voire dans certains cas de 24 heures. Je parlais avec des gens hier, justement, qui étaient à leur 49e quart de travail d'affilée, d'autres 21 quarts de travail d'affilée. Ils sont vraiment laissés un peu, malheureusement, sans soutien.
Je vous donne un exemple. Sans encadrement, Sans encadrement.
Oui. Oui. Ben, je compare un petit peu au Titanic qui est en train de couler, mais le capitaine est déjà parti. Fait que c'est sûr que les matelots essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas de leadership. On a un coordonnateur qui s'occupe de donner les cartes, d'attitrer les aux gens, qui va à quel étage, qui va travailler. Mais quand on rentre en après-midi, on constate rapidement que le coordonnateur est débordé, qu'il y a 15-20 personnes qui attendent après lui pour avoir un peu de leadership. Ça va être ma troisième semaine que je termine cette semaine comme aide de service. Mm-hmm. Puis j'ai pas pu constater personne sur un étage qui vient vraiment prendre le lead, qui vous dit « bon, il y a ça à faire, il faut aller à telle place, il y a tel item à accomplir ».
Puis vous êtes dans un CHSLD, il faut le dire, là, qui a été durement frappé, là.
Oui, je suis au CHSLD Grace Dart. Mon premier quart de travail, effectivement, j'ai commencé à travailler avec des gens qui sont confirmés positifs à la COVID. Je peux vous rassurer, par contre, que les équipements étaient présents, que ce soit les jaquettes, les gants, les masques, les visières. On a eu les protections nécessaires, mais c'est sûr que le personnel réduit a fait que ma petite formation de 4 heures comme aide de service offerte par la Croix-Rouge, ben ça a été rapidement au-delà de ce que j'avais à faire, de ce que j'anticipais faire. Non pas parce que je ne voulais pas le faire, mais bien au contraire, j'étais content de constater qu'il y avait besoin d'aide. Puis le petit peu d'ouvrage que je faisais, je voyais un gros changement au niveau des bénéficiaires qui, si nous, on a vécu un confinement, nous, notre confinement, on a le droit à la télévision, on a le droit de commander notre repas, on a le droit d'aller sur Amazon, commander ce qu'on veut, on peut aller prendre une marche, on peut changer de poste de téléviseur, on peut changer de poste de radio. Mais dans leur cas, souvent, il n'y a pas de radio. Le téléviseur joue le même poste à cœur de journée. Je parlais avec des résidents qui écoutaient des courses de Formule 1, puis ils me disaient « Oh, je ne sais pas si Stroll va gagner cette année, mais c'est parce que, juste pour vous dire, c'est des reprises de l'an dernier. La F1 est arrêtée. Les calendriers sur les murs sont encore en arrêt en mois de mars dernier. Les journaux, la lecture qu'ils avaient, c'est de la lecture du mois de mars. Ils les ont lus, revus et revus. On leur dit quand se coucher, on leur dit quand manger, on leur dit quoi manger. Vous savez, le confinement qu'on a vécu comme Québécois normal, je vais vous dire que c'est la liberté comparativement à ce qu'ils ont pu vivre dans les 2 derniers mois.
Racontez-nous, c'est tellement dur, là, mais cette histoire-là, quand vous êtes allé changer une dame, puis là, honnêtement, on n'est pas loin de l'indignité.
Bien, en fait, je veux juste dire quelque chose. C'est pas, avant que je vous parle un petit peu de ce qui s'est produit, je vais vous dire que les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, le personnel qui est là, c'est des gens dévoués. C'est des gens vraiment qui mettent corps et âme. Puis j'ai vu vraiment de belles images et j'ai des émotions très positives encore de toute mon expérience. Puis j'ai pas encore terminé. Je termine cette semaine.
Oui.
Malheureusement, ben pour des raisons différentes, pour maintes raisons, c'est pas tout le monde qui fait un bon travail. Vous avez des mauvais mécaniciens, vous avez des mauvais journalistes, vous avez des mauvais commentateurs. Mais dans cette situation-là, je me suis retrouvé une soirée dans un département qui, c'est des gens qui ont leur capacité cognitive de beaucoup réduite. Donc, c'est des gens qui souffrent beaucoup de démence, d'errance. Mm-hmm. Puis naturellement, ben il faut à un moment donné donner les services, que ce soit déjeuner, dîner, souper, les laver, les aider, les encadrer. Puis à un moment donné, bon, il faut laver les bénéficiaires, Ils ont le droit à 2 bains par semaine, puis le reste, c'est, ça se fait à la débarbouillette. Puis, généralement, avec les autres personnels avec qui j'ai travaillé, ça se faisait très bien. Les gens sont très dévoués. Dans un certain cas, où est-ce qu'on a dû aller laver une bénéficiaire qui ne voulait pas se faire laver? Bon, j'anticipais, moi, m'asseoir avec, puis essayer de la convaincre, puis lui parler pour l'amener à comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait. Vous comprendrez que c'est une femme d'un certain âge, on est 2 hommes face à elle, est assise sur le côté de son lit, puis le préposé au bénéficiaire dit, bon, ben madame une telle, il faut vous laviez. Puis on vous enlève votre linge, puis c'est pas doux, c'est pas on enlève le linge délicatement, la dame naturellement veut pas. On comprendrait que si je vais dans votre studio et j'essaie de vous déshabiller, il y a des grosses chances que vous refusiez que je vous déshabille instantanément, même si j'ai des soins à vous donner. Alors, finalement, la dame se retrouve nue devant vous, devant nous, puis se cache ses parties intimes, ses seins, ses parties génitales. Puis on sent déjà la terreur. Juste à regarder ses yeux, vous sentez la terreur de la dame. Naturellement, j'ai un grand malaise parce que c'est pas mon métier, hein, vous comprendrez. J'ai eu un enfant, puis bon, changer quelqu'un, laver un enfant, c'est quelque chose de différent. Laver un étranger, c'est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement toujours préparé à faire. Encore plus quand c'est quelqu'un qui refuse de le faire. La dame nous regarde, puis s'objecte à ne pas se faire laver. Le préposé bénéficiaire me demande de tenir la dame. On m'a appris que quelqu'un qui est plus âgé, qui a plus les os et la peau et les os, il faut faire vraiment être sensible, il faut faire attention, ils peuvent marquer facilement, ils peuvent développer des maladies qui vont devenir plus complexes. Il me demande de le tenir, puis il se rend bien compte que je suis pas capable de la contrôler parce que j'ose pas serrer. Lui, il prend les 2 poignets, prend les 2 mains, lève au-dessus de sa tête les poignets de la dame et il dit « lave-la ». Naturellement, laver le sous les bras, laver le dos, laver le torse, les seins. Puis là, il s'insère son genou entre les 2 genoux de la dame, puis il force l'ouverture, puis il penche sa tête, puis il dit « lave-la ». Je peux vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai eu une fraction de pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais vous savez, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, 2-3 quarts de travail dans un département, dans un milieu que vous ne connaissez pas. Vous n'osez pas trop lever votre main. Et le quart s'est terminé, je suis rentré à la maison. Mon épouse m'a regardé, puis elle me dit « ça va pas ». Je dis « non, ça va pas ». Mais je savais pas ce que j'avais. J'étais fatigué, j'étais épuisé, j'avais mal à la tête, j'avais besoin d'aller dormir, j'avais pas d'appétit. J'ai dormi 12 heures, ce qui m'est arrivé depuis longtemps. Le lendemain, la même chose, pas plus d'énergie.
C'est comme un choc. Vous aviez comme vécu un choc?
Ben, à ce moment-là, je l'ignorais. Je vais être honnête avec vous, je pensais que j'avais la COVID. Grande fatigue, comme lorsque vous faites de la fièvre, mal de tête, pas d'appétit. J'ai appelé le 811, puis là, bon, il écoute les symptômes, on fait l'analyse, puis je dis que je travaille dans un CHSLD, dans une zone rouge. Première chose qu'on me dit, allez passer un test de la COVID. Naturellement, le résultat est revenu 2 jours plus tard, puis c'était négatif. Heureusement, mon employeur actuel, on a d'excellents programmes d'aide aux employés, puis j'ai été soutenu rapidement en se rendant compte que, oups, c'est mon côté mental qui en souffrait. C'est moi qui ça allait à l'encontre de mes valeurs personnelles.
C'est ça, c'est
j'avais vécu un trauma personnel.
Un trauma de valeur. Ce que vous aviez vécu, ça vous avait heurté dans votre fort intérieur, dans vos convictions puis vos valeurs profondes.
Ben, vous savez, M. Drainville, depuis qu'on est tout petit, on vous inculque que si une femme vous dit non, c'est non. Puis quand la dame nous regardait et a dit non, je refuse, non, je veux pas. Puis, à un moment donné, ben, elle vous regarde, puis elle vous dit, écoutez, vous êtes 2 hommes, vous voulez abuser de moi, faites-le. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'est là où est-ce que ça sonne une cloche. C'est à ce moment-là que, quelques jours plus tard, j'ai dit à mon épouse, j'ai l'impression d'avoir participé à une agression sexuelle.
Vous allez terminer votre expérience cette semaine. Vous allez retourner à votre métier de contrôleur aérien. Il me reste 30 secondes, Pierre Gaumont. Qu'est-ce que vous allez garder de plus important de cette expérience-là qui va vous servir pour le reste de votre vie, mettons?
Ben, je peux vous dire que, comme je vous ai dit, le personnel est tellement dévoué. Les gens font avec ce qu'ils font. Je peux vous dire que je me suis arrêté à un moment donné dans un des départements, puis j'ai regardé, puis j'ai dit « je ne veux plus vieillir ». Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas vivre ce que ces gens-là vivent présentement. Mmh. Mais je peux vous dire que les choses vont changer, les choses ont déjà commencé à changer. Le CHSLD m'ont appelé ce matin, le CIUS vont faire enquête sur ce qui s'est passé, et les choses sont en train de changer. Ce que Mme Rinfrette disait tout à l'heure dans votre entrevue, ben, je pense que les choses vont changer. Puis je serai là pour le vivre. J'ai écrit à Mme McCann avec toute une liste de choses qui ont à changer. Puis je serai là pour aider à faire le changement si nécessaire.
Bravo, Pierre Gaumond. Bravo pour le travail que vous avez fait, votre engagement, puis le fait que vous êtes prêt à participer pour essayer d'améliorer le système à partir de ce que vous avez vécu. Bonne chance avec votre tour comme contrôleur aérien, Pierre Gaumond. Merci beaucoup.
Merci, M. Drainville. Au revoir.
Non, je sais pas. Après la pause, on change de registre. Une belle histoire. Je dis pas que celle qu'on vient de raconter pas une belle histoire. Il y avait du beau là-dedans, là, mais il y avait quelque chose aussi qui nous saisissait. Hein. Mais après la pause, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme. On avait perdu sa trace depuis 2 ans et on l'a retrouvée dans le sud de l'Ontario.